à vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Blasphemous 2. On aura ensuite un top des ventes de jeux vidéo pour les ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news de jeux vidéo concernant God of War Ragnarok. On aura ensuite une news technologie avec des hackers qui ont piraté des machines à mélanger les cartes pour tricher au poker. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de Blasphemous 2. Donc c'est un jeu vidéo de type Metroidvania, action RPG plateforme qui est jouable en solo. Il a été développé par le studio espagnol The Game Kitchen et édité par Team 17. Le jeu est sorti le 24 août 2023 sur Windows, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il fait suite à Blasphemous qui était sorti en 2019. Blasphemous 2 reprend la majorité des caractéristiques de son aîné. C'est un Metroidvania difficile à la direction artistique Dark Fantasy. Le jeu est classé PEGI 12 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 86 sur 100 sur Metacritic. Donc en 2019 sortait Blasphemous, un jeu vidéo indépendant marchant dans les pas de Metroid, Castlevania ou du plus récent Hollow Knight. Un titre salué pour son gameplay aux allures de chemin de croix, mais aussi pour son univers. Le studio The Game Kitchen s'est inspiré entre autres du Moyen-Âge du sud de l'Espagne et de son Inquisition. Une période remplie de contes et de légendes qui continue d'être dépeinte dans Blasphemous 2. L'évangile de l'Inquisition espagnole prêche-t-il à nouveau la bonne parole ? Donc en 2016, 3 ans avant la sortie de Blasphemous 1 dans le monde, le level designer de The Game Kitchen, Enrique Collinet, déclarait ceci. Nous nous sommes demandé comment un jeu basé sur le folklore espagnol pourrait être perçu par des personnes extérieures à l'Espagne. Nous avons beaucoup vu cela dans les jeux japonais, les jeux chinois, les jeux réalisés en Suède ou en Norvège avec des styles vikings. Alors nous nous sommes demandé comment un jeu basé sur notre folklore fonctionnerait. Et donc né Blasphemous en 2019, sa suite, elle, est arrivée le 24 août sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Un deuxième épisode qui reprend le flambeau du premier pour représenter les contes et légendes andalous. Quelque chose qu'il arrive à faire à travers son histoire, son level design, son atmosphère, mais aussi ses combats. Donc lors de sa sortie il y a 4 ans, Blasphemous se voyait déjà décrire comme la suite spirituelle de Castlevania, Symphony of the Night, que l'on aurait croisé avec les Dark Souls de From Software. S'il faut remonter légèrement plus en arrière pour mettre le doigt sur les inspirations du studio espagnol The Game Kitchen, il est clair que la licence Blasphemous partage un gros point commun avec les jeux supervisés par Hidetaka Miyazaki, une histoire plus que cryptique qui se dévoile à qui le souhaite vraiment. Souligné comme un point négatif, l'histoire floue de ce dernier doit être assimilée pour quiconque souhaite s'immerger à coups d'eau bénite dans sa suite. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre mission n'est finalement pas terminée. Malgré notre victoire contre la forme finale d'Escribar dans le DLC gratuit Once of Eventide, le miracle est toujours présent. Une espèce de dieu crainte et admiré qui élève ou punit selon sa volonté. Donc comme on va le voir plus tard, c'est le miracle qui serait responsable de toutes les damnations subies par les habitants de Custodia, le monde dans lequel prend place Blasphemous 2. Pénitent, une personne qui confesse ses péchés. C'est une nouvelle fois sous ce pseudonyme que le joueur va, entre autres, être porteur du blasphème. Si ses péchés sont inconnus, il a fait vœu de silence et son sacerdoce est, lui, bien connu. Il est chargé par Annunciada de repousser la naissance du miracle. C'est cela qui avait été teasé à la fin du DLC. Pour ce faire, il doit d'abord vaincre les membres de l'archiconfraternité, donc ce n'est qu'une fois leur fragment du regret récupéré que le pénitent pourra atteindre les sommets de la ville. Et c'est à peu près tout pour l'histoire. Si l'on conçoit bien que le flou entretenu sur l'intrigue est tout à fait volontaire, il reste trop épais pour nous, et ce malgré une bonne maîtrise du lore du premier opus. Néanmoins, il faut reconnaître que cela engage le joueur à se renseigner, à lire chaque description d'objet pour se faire sa propre aventure, d'autant que le jeu fait comme son grand frère, il dispose de deux fins. L'une considérée comme bonne, l'autre comme mauvaise, et il faudra réellement se creuser la tête pour afficher la fin A. Toutefois, cette intrigue s'efface pour faire briller l'un des aspects les plus importants du jeu en tant que Metroidvania, l'exploration. Donc pas de panique, Blasphemous 2 est un jeu que les amateurs du genre apprécieront, même sans accorder d'importance à l'histoire. Encore une fois, le studio The Game Kitchen démontre sa maestria dans le domaine. Le level design est un régal. On se prend vite au jeu de l'exploration, d'aller inspecter chaque pièce et de griffonner notre avancée grâce aux marqueurs que l'on peut inscrire sur notre carte. Une envie d'explorer amplifiée par les nombreux collectibles du jeu, les frères de Proximo sont de petits anges qui nous forcent à regarder en hauteur, tandis que les Kobiradas sont cachés dans les couloirs secrets qui ne se révèlent qu'à condition de taper dans les murs. Probablement dans un souci de faire mieux et plus quand, dans Blasphemous premier du nom, les développeurs espagnols ont non seulement décidé de multiplier par 3 les armes disponibles, mais surtout d'en faire des pouvoirs pour l'exploration à part entière. Par exemple, le fléau Veredicto est une arme lourde qui permet également de faire tinter des cloches. Celle-ci envoie alors des ondes permettant d'ouvrir un certain type de porte ou de faire apparaître des plateformes. Une idée très maligne qui casse à coup sûr la linéarité du titre. Néanmoins, il est important de noter deux choses. Il y a une certaine lourdeur dans les phases de plateforme, une certaine latence qui peut frustrer les joueurs. Encore une fois, c'est ici probablement quelque chose de voulu afin de renforcer le sentiment de malaise éprouvé manette en main. Ce n'est donc pas un défaut en soi, mais certains pourraient être déçus de ne pas retrouver un certain dynamisme comme celui de Hollow Knight par exemple. À ce sujet, le rythme de l'exploration de Blasphemous 2 n'atteint pas non plus celle de Hollow Knight et souffre de quelques périodes de creux. Voilà, on va faire une petite pause musicale dans ce test. On va s'écouter la musique Lienzo de la Luz y el Tiempo, extraite de l'OST du jeu, donc Blasphemous 2, et on revient juste après. Donc c'était Lienzo de la Luz y el Tiempo, une musique extraite de l'OST du jeu Blasphemous 2. On reprend donc avec la deuxième partie de ce test. Donc comme dit avant et malgré ce léger problème de rythme, Blasphemous 2 arrive à de nombreux égards à pousser le joueur dans son exploration. Outre les collectibles cachés et les pouvoirs à récupérer déjà mentionnés, c'est surtout par son ambiance qu'il ne cesse de nous émerveiller. Les équipes du studio s'inspirent de la période de l'Inquisition espagnole, dont le siège était à Séville, au même endroit que le quartier général du studio, une ère où la religion catholique était prédominante et a généré son lot de contes, parfait pour insuffler cette touche de malaise propre à leur licence. À cela, ils ajoutent comme source d'inspiration le peintre espagnol Francisco de Goya, un artiste libertaire connu pour avoir dénoncé avec ses œuvres les actes de violence commis par le tribunal religieux. Il a par ailleurs réalisé une série de 14 fresques intitulées Les Peintures Noires peu avant sa mort. Un style qui a aussi influencé Kentaro Miura avec son manga Berserk, qui a à son tour influencé à plusieurs reprises Blasphemous. Une fois que l'on a vraiment pris conscience de tout ça, il est encore plus enivrant de se plonger dans Blasphemous 2. Encore une fois, tout fait penser aux religieux, le nom des zones, les ennemis, mais aussi les rares personnages que le pénitent va rencontrer lors de son périple. Le sculpteur d'effigie, Annunciada, ou encore Lesmes, le sacristain corrompu. Comme vous, ils doivent tous faire pénitence de quelque chose et comptent sur vous pour les aider. Au fur et à mesure que vous répondez à leurs demandes, leur apparence change ainsi que leur discours. De quoi, une fois de plus, motiver l'exploration et savoir ce que le miracle leur réserve une fois leur pénitence accomplie. Mais tout n'est pas si simple. Une fois l'aventure terminée, il est probable qu'il vous reste quelques objets sur les bras dont vous ignorez totalement quoi faire. Il y a alors une chance non négligeable pour que vous ayez loupé votre tour, de sorte que l'interaction avec ces 10 objets n'existe plus. On regrette alors sincèrement l'absence d'une nouvelle partie plus. En effet, pour éprouver cet héroïque, il faudra alors simplement recommencer une partie. Quelque chose qui devrait prendre moins de temps de par l'expérience acquise, mais qui peut être considéré comme rébarbatif pour certains. En résumé, on sent que la direction artistique est plus que maîtrisée et fait parfaitement son office, en provoquant malaise et macabre dans un univers religieux. Si elle saute moins aux oreilles que les visuels aux yeux, la bande originale discrète s'efface probablement pour laisser place à la contemplation. Elle reste similaire au premier et évoque encore une fois le Moyen-Âge espagnol avec le flamenco. Après l'exploration et l'intrigue, il reste encore un gros morceau à aborder, celui du gameplay. Ce dernier reste très similaire à celui de son frère aîné, à la différence près que le joueur peut choisir entre trois armes au début. Deux fleurets pour de la rapidité, une lame équilibrée, ainsi qu'un fléau pour ceux privilégiant les attaques lourdes. Se déroule alors le tutoriel qui explique les bases, il y a une attaque principale, un système de parade et la possibilité de glisser sous les ennemis ou de leur sauter par-dessus. Ce sont les trois choses à appréhender en début de partie. La prise en main est rapide et naturelle et on se retrouve vite à devoir taper du monstre. Ce premier obstacle passé, le jeu met alors le joueur sur la route d'un verset, une sorte de magie rapide en opposition aux prières qui demandent plus de temps d'incantation. Les deux consomment de la ferveur, le nom qui est donné à la barre bleue. Il en existe quatre, feu, mystique, miasme, foudre, quelque chose que l'on peut rapidement prendre en compte pour personnaliser son style de jeu, notamment via l'arbre de talent de chaque arme. Chacune d'elles est liée à un type en particulier, et chaque arbre est divisé en trois paliers, paliers que l'on débloque grâce à des statues découvertes lors de notre exploration. Ce sont les points de martyr qui permettent de débloquer de nouvelles compétences. Elles peuvent être simplement passives, voire changer le style de jeu en rajoutant un coup à l'enchaînement. Une personnalisation qui ne s'arrête pas là puisque deux autres aspects sont à prendre en compte. Le pénitent croise vite la route du sculpteur. Il lui permet d'avoir une étable à effigie, des représentations sculptées liées au folklore du jeu qui octroient des bonus supplémentaires. Le système de rosaire fait aussi son retour avec des charmes à équiper permettant majoritairement de réduire certains types de dégâts. Que ce soit les prières, les points de martyr, les larmes d'expiation qui sont la monnaie principale du jeu, les rosaires ou encore les effigies, tout s'obtient en majorité grâce à l'exploration et à la réalisation de quêtes. Il y a donc une source de motivation supplémentaire de passer au peigne fin l'intégralité de la carte. Mais comme on vous le fait sentir de manière répétée à travers l'intégralité de Blasphemous 2, le périple est un chemin de croix et la mort vous guette à chaque coin de chapelle. Le joueur peut alors compter sur ses flasques de bile, principale source de soins, s'il prend des dégâts. Des potions qui se rechargent à chaque fois que notre pénitent s'agenouille devant un prie-dieu, un meuble bien utile qui permet de sauvegarder, recharger les batteries et faire réapparaître tous les individus zélés qui veulent notre mort. Et vous n'échapperez pas éternellement à cette dernière, celle-ci a pour conséquence de vous faire réapparaître au dernier prie-dieu devant lequel vous vous êtes agenouillé, mais surtout de vous tirer un fragment de culpabilité, de quoi limiter votre ferveur. Un péché qu'il vous faudra expier en allant voir le confesseur ou à récupérer à l'endroit même de votre décès. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a une maîtrise absolue de l'ambiance par son chara-design et ses biomes, un level design classique mais très efficace, une durée de vie parfaite, l'exploration qui est poussée à fond et est très dynamique, et une personnalisation plus riche que dans le premier épisode. Pour les points faibles, on a un petit problème de rythme dans l'obtention des pouvoirs, l'absence d'un New Game Plus, une histoire encore trop murmurée, un jeu un poil timide pour une suite et un bestiaire peu varié et proche du premier. Voilà, Du coup, on va pouvoir s'écouter une autre musique extraite de l'OST du jeu Blasphemous 2, c'est Procession des Sombras, et on reviendra juste après. Donc c'était la musique Procession des Sombras, une musique extraite de l'OST du jeu Blasphemous 2. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news jeux vidéo, une news technologie, et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place New Super Mario Bros. U Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place c'est Atlas Fallen sur PS5, un jeu de Focus Home Interactive. En 3ème place c'est Pikmin 4 sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En deuxième place, c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en troisième place Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. En deuxième place, c'est Final Fantasy XVI. Et en première place, Atlas Fallen. Pour la Xbox Series, on a en troisième place Atlas Fallen. En deuxième place, Diablo 4. Et en première place, Forza Horizon 5, l'édition Premium. Le top 3 pour la PS4, on a en 3ème place Grand Theft Auto 5, la Premium Edition. En 2ème place, c'est F1 23 et en 1ère place, Hogwarts Legacy. Pour la Xbox One, on a en 3ème place Grand Theft Auto 5, la Premium Edition. En 2ème place, c'est FIFA 23 et en 1ère place, Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en 3ème place Farming Simulator 22, l'édition Platinum. En deuxième place, Microsoft Flight Simulator, l'édition Premium Deluxe. Et en première place, c'est Farming Simulator 22. On passe maintenant à la news jeux vidéo et si la course de God of War Ragnarok n'était finalement pas terminée. À en croire un insider plus que connu, un DLC serait en développement contre toute attente. Sorti en novembre 2022, God of War Ragnarok a reçu un excellent accueil critique et commercial, s'imposant naturellement comme l'un des must-have de la PlayStation 5. Il venait notamment clore l'arc de la saga nordique, initiée avec le God of War de 2018, poussant les joueurs à imaginer tout un tas de théories pour l'avenir de la saga. Quant à la question d'un DLC, le directeur du jeu Eric Williams avait pourtant été clair à ce sujet en fin d'année dernière, donc je cite « Je pense que nous avons mis tout ce que nous avions dedans, donc je ne compterai pas dessus ». Notons que la phrase restait au conditionnel et nous comprenons aujourd'hui pourquoi. Au passage, notons que l'un des comédiens du jeu avait teasé le retour de ce personnage iconique de Ragnarok et, sans que cela annonce une extension, l'existence de celle-ci n'était pas à écarter totalement. Aujourd'hui, une nouvelle rumeur vient relancer le sujet. On doit l'information du jour à The Snitch, soit l'un des insiders les plus réputés de l'industrie. L'internaute a déjà lâché un paquet de scoops par le passé, Qu'il s'agisse du PlayStation Showcase, des infos de la Metal Gear Solid Master Collection ou encore de la date de sortie de Final Fantasy XVI. Généralement, quand il lâche une info, celle-ci a des chances de se concrétiser, même si la prise de pincette est toujours de rigueur. L'erreur est humaine, comme on dit. Bref, The Snitch vient tout juste de casser Internet. Le projet DLC de God of War Ragnarok est en cours de route, c'est parti. Il n'en fallait évidemment pas plus pour enflammer le cœur des fans, visiblement réjouis d'une telle information. Il faut dire qu'un DLC serait effectivement de rigueur quand on sait, ou plutôt quand on imagine, que le prochain God of War arrivera dans longtemps. Non seulement la conception de ce genre de titre nécessite un investissement monstre, mais on sait également que Santa Monica planche a priori sur une toute nouvelle franchise de science-fiction. Bref, un contenu additionnel permettrait de mieux faire patienter la communauté jusqu'au prochain chapitre de la saga, voire même de servir de transition entre la mythologie nordique et ce que nous réservent les développeurs. Peut-on s'attendre à un standalone, pourquoi pas avec un Atreus plus vieux, un peu à la manière de ce qu'avait proposé Insomniac Games avec Spider-Man Miles Morales. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à attendre pour voir ce qu'il en sera. On continue avec la news technologie. L'univers insouciant des casinos, où chance et divertissement se mêlent, a récemment été secoué par une révélation troublante. Des chercheurs en sécurité ont révélé une faille majeure dans la machine à mélanger les cartes utilisée dans les casinos, laissant entrevoir la possibilité pour des tricheurs aguerris d'exercer un contrôle total sur les jeux de cartes. Ils ont été inspirés par un scandale de tricherie qui a eu lieu l'année dernière. Un joueur novice ayant une mauvaise main a appelé le bluff d'un joueur plus expérimenté lors d'une partie de poker. Ce coup était tellement incroyable que le commentateur a pensé qu'il y avait un bug dans l'affichage des cartes. Le casino qui organisait la partie, le Hustler Life Casino, a mené une enquête officielle et a affirmé qu'il n'y avait pas eu de tricherie. Il a assuré que la machine à mélanger les cartes utilisée était sécurisée et ne pouvait pas être compromise. Mais les chercheurs de la société IO Active ont relevé le défi. Ils ont découvert que la Deckmate 2 pouvait être piratée par son port USB accessible ou par son modem interne. Ils ont fabriqué un appareil de piratage à partir d'un Raspberry Pi en exploitant plusieurs failles, dont un firmware défectueux qui leur permettrait de modifier le code crypté de la machine sans être détecté. Ils ont associé cet appareil à une application Bluetooth qui affichait les mains des autres joueurs en fonction des données. En gros, cela nous permet de faire plus ou moins ce que nous voulons, a déclaré Joseph Tartaro, un chercheur chez IO Active. Il a ajouté que même la version précédente de la machine, la Deckmate 1, qui ne dispose ni d'une caméra ni d'un port USB, pourrait quand même avoir sa puce informatique compromise par un employé et être forcé à ne pas mélanger les cartes après une main par exemple. Un joueur habile avec ce petit avantage nettoierait tout, a déclaré Tartaro. Light & Wonder, la société derrière Deckmate, affirme qu'aucune de ces machines à mélanger les cartes n'a jamais été compromise sur le sol d'un casino, selon un communiqué envoyé à Wired. Elle ajoute que les tests d'IO Active ont été effectués dans un environnement de laboratoire, dans des conditions qui ne peuvent pas être reproduites dans un environnement de casino réglementé et surveillé. Tandis que l'industrie du casino s'efforce de parer à de telles menaces, cette découverte met en évidence les défis grandissants auxquels elle est confrontée pour garantir l'intégrité de ces jeux. Monsieur Tartaro et son équipe admettent qu'ils n'ont pas testé leur méthode dans un vrai casino, mais si leur méthode de piratage est si indétectable, le fabricant ne saura donc pas si la machine a été piratée ou non. Voilà, on finit donc l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on a eu une sortie aujourd'hui vendredi 25 août avec Armored Core 6 Fires of Rubicon qui est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. On aura ensuite trois sorties pour mardi 29 août avec Sea of Stars sur PC, PS5 et Nintendo Switch, Under the Waves sur PC, PS5 et Xbox Series et Samba de Amigo, partie centrale, sur Nintendo Switch. Et enfin, la dernière sortie de la semaine, ça sera pour mercredi 30 août avec Daymare 1994 Sandcastle, qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfet.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.